Alors ici, Pierre Duguay-Boudreau, je suis présentement en compagnie d'Alain Lavoie. Alain Lavoie qui est présentement VP académique à la FÉCUM, mais également candidat pour ces élections de la FÉCUM. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir une discussion avec les trois candidats en partenariat avec le 93.5 Kodiak FM. Alors pour débuter la journée de discussion, bien nous sommes présentement avec Alain. Alain, bonjour. Est-ce que tu voudrais peut-être te présenter aux gens qui nous écoutent?
Bonjour Pierre, bien sûr. Bonjour tout le monde qui nous écoute. Donc moi c'est Alain Lavoie, comme mentionné, je suis candidat à la vice-présidence académique de la FÉCUM pour l'année 2021-2022. Je suis en troisième année en éducation primaire à l'Université de Moncton, bien sûr. Puis c'est sur cette année, je me lance pour un deuxième mandat. Comme vous l'avez mentionné, j'ai déjà fait un premier mandat à la vice-présidence académique. Là, je vais faire un deuxième mandat. J'ai eu la chance de siéger sur le conseil d'administration de l'Association des étudiants en éducation, également sur le conseil exécutif. Donc, j'ai vraiment pu voir un peu là, c'est qu'est-ce que les problématiques au niveau de l'académique. C'était toujours quelque chose qui m'a intéressé, en fait. Puis c'est pour ça, l'année dernière, je me dis, ben, je vais me lancer ce défi-là, puis je vais aller VP académique. Puis ça a été une super belle année. Quand j'ai mis ma candidature en considération, quand j'ai placé ma candidature, désolé, je me suis dit, on n'était pas en temps de pandémie, je me suis dit, j'avais parlé à des anciens VP, à CAD, je savais un peu qu'est-ce qu'étaient les dossiers, mais les dossiers ont un peu changé quand on est tombé en pandémie. Il y a eu beaucoup plus de petites choses, de décisions urgentes à prendre. Ça a fait en sorte que j'ai dû placer des dossiers de côté cette année, puis vraiment me concentrer sur le présent. Donc, c'est un peu pour ça que je vais me présenter un deuxième mandat. C'est réaliser à nouveau les dossiers qui n'ont pas été lieux, qui n'ont pas pu être faits, puis de même que continuer une bonne représentation des étudiants.
Excellent, Alain. Et puis là, maintenant, on va passer à la deuxième phase, alors que les membres de la FÉCUM, les étudiants de l'Université de Moncton, nous ont envoyé des questions. Aujourd'hui, ben, ce sera la chance pour toi de pouvoir y répondre. Alors, la première question, bien évidemment, cette année, les cours qui étaient offerts à distance, et on se croise les doigts pour l'an prochain pour un retour en présentiel. Et si c'est le cas, comment entrevois-tu le retour sur le campus d'un point de vue académique?
Oh, c'est une super de bonne question. Encore là, les discussions, puis je suis pas prêt à lancer. Je suis un peu biaisé. Je suis d'un premier mandat. On a quand même des discussions qui s'en viennent pour qu'est-ce qu'on peut considérer l'année prochaine. Pour l'instant, je parlerai pas de ça, mais qu'est-ce qu'on peut considérer, prendre en considération lorsqu'on va revenir sur le campus en présentiel? C'est beaucoup d'adaptation puis d'ajustement chez le corps professoral et également chez les personnes étudiantes. On doit s'adapter au niveau la matière. On sait que la matière n'était pas toujours. On avait beaucoup, tu sais, pour nos examens, on avait nos notes, on avait des choses comme ça. Donc là, on devra faire un retour à la réalité, comme qu'on dit. Puis aussi s'ajuster parce que c'est difficile à voir comment est-ce que on a vraiment appris, qu'est-ce que ça a été vraiment nos apprentissages. Donc ça se peut qu'il y ait des niveaux, par exemple, en première année ou en trois, quatrième année, qui ont de la difficulté à s'adapter aux apprentissages. Donc, faudra trouver un juste milieu puis faire un peu un retour en arrière sur les notions qui ont été abordées cette année-là. Donc, ouais.
Et là, maintenant, si on regarde vers le futur et autant fort qu'on s'est croisé les doigts, ça n'a pas fonctionné. Et l'an prochain, nous sommes à nouveau en ligne. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré si les cours doivent encore être donnés à distance à partir de septembre 2021?
Beaucoup plus de flexibilité. Ça, c'est un mot que j'aime bien. Je trouve que la situation étudiante, à l'instant, c'est très difficile. Les étudiants, on voit ça d'après les sondages, presque dans toutes les universités qui sont surchargées. Donc, on devra prendre ça en considération. Même une possibilité de réduire la charge de travail chez les personnes étudiantes. Ça peut sembler avoir des effets négatifs, mais il ne faut pas oublier le bien-être de nos étudiants dans tout ça. Donc ça va être la première chose à prendre en considération puisqu'on est encore à distance. La deuxième chose, continuer à avoir des personnes du SAS, donc le service de soutien pour, tu sais, les professeurs, d'améliorer leur méthode pédagogique, continuer à offrir des formations cet été. La qualité, on peut toujours améliorer la qualité de l'enseignement. Ça, c'est une chose que ça termine pas. Il y a un continuum là-dessus. Puis c'est ça que je pense qu'on doit faire, offrir d'autres formations. offrir aussi les outils nécessaires. Il y a beaucoup de... Oui, le financement est difficile à l'instant, mais on n'offre pas toujours les outils nécessaires à tous les membres du corps professoral, donc on peut faire l'ajustement là-dessus.
Et présentement, le recteur qui est en discussion pour mettre en œuvre un plan stratégique pour revoir la carte des programmes à l'université et éventuellement couper des postes. Quelles devraient être les priorités de l'université du point de vue académique concernant cette discussion?
C'est une super de bonne question, Pierre. C'est qu'on est d'un peu, on est d'une situation que le financement affecte l'académique. On se le cachera pas. C'est difficile à répondre à la question juste au niveau académique. C'est certain, ça serait juste de moi, il y aurait pas de coupure de programme. Mais les programmes que ça fait difficile, qu'on, d'après le plan stratégique, on devra couper des programmes. Je suis presque sans mots, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'académie? C'est certain que moi, j'aimerais garder tous les programmes. Tous les programmes ont leur valeur, mais au niveau du financement, est-ce qu'on peut entreprendre, à engager avoir le coût de tous ces programmes-là? C'est une décision qui devra être prise, mais nous, en tant que VP, moi, en tant que VP académique, c'est certain que je mise pour la continuité de tous les programmes.
Puis, permets-moi un peu de faire du cheval là-dessus avec les coupures éventuelles dans ces programmes-là, sous prétexte d'équilibrer les finances de l'université. Qu'est-ce que vous prévoyez faire au courant du prochain mandat pour protéger les disciplines fondamentales qui seront sans doute visées? On parle surtout, ces disciplines également qui vont subir la rationalisation du gouvernement conservateur et la logique marchande de l'administration universitaire. Alors, qu'est-ce qui va être des mesures mises en place pour combattre justement ces coupures?
À la base, la sensibilisation. On ne peut pas faire des miracles, mais on peut éduquer les gens de l'importance de ces domaines fondamentaux, pas juste pour les emplois. Le gouvernement mise beaucoup sur les emplois, mais il y a aussi une importance de la pensée critique là-dedans. Donc, faire en gros, moi, ma réponse est très simple, faire de la sensibilisation puis de montrer comment est-ce que ces domaines-là sont importants dans la société, pas juste au niveau des emplois, mais au niveau de plusieurs d'autres choses.
Ben justement, hier, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait l'annonce via un communiqué que le financement à long terme allait maintenant être basé sur la performance des institutions d'éducation. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que ça nuit à l'éducation à long terme? Quelle est votre opinion à ce sujet-là?
En fait, Pierre, ça c'est quelque chose qui c'est pas encore clair. Le communiqué, d'après qu'est-ce que moi j'ai lu, qu'est-ce qu'on a remarqué à la FECUM, ça touche pas à l'instant, comme je le mentionne, à l'instant ça touche pas encore les universités. Mais c'est quelque chose que le gouvernement envisage. On a eu des rencontres. C'est quelque chose qu'on sait que c'est possible pour nous les universités. Donc c'est pas officiel à l'instant. Ben nous on voit pas ça comme bénéfique. On voit pas que c'est une chose qui peut durer à long terme. Donc, c'est certain qu'on n'opera pas pour ça, mais c'est ça. Au niveau de l'académique, c'est plus ou moins, le financement me touche plus ou moins, c'est mes dossiers de mes collègues, mais c'est quelque chose, d'après nos discussions, c'est quelque chose qu'on n'entrevoit pas d'être bénéfique.
Et finalement, dernière question de la communauté étudiante. Est-ce que tu serais en faveur de changer le mode de scrutin de la FECUM au vote préférentiel? En anglais, on connaît aussi ce mode de scrutin sous le nom « ranked ballot » s'il y a plus que deux candidats par poste.
L'importance de ça, à mon avis, il y a un candidat qui doit être élu. Je pense pas que c'est important. C'est pas un concours de popularité non plus. On va là pour les bonnes raisons. On veut représenter la masse étudiante. Donc, je crois qu'en autre, ça permettrait juste de voir qui a été populaire au détriment de l'autre. Puis, je trouve que c'est quelque chose que c'est pas nécessaire. On a un élu, puis c'est avec ça. C'est ça que la masse étudiante élit, là.
Puis, on va terminer là-dessus. Alain, on a eu la chance de survoler quelques éléments de ta plateforme, de survoler certains éléments académiques. Est-ce qu'il y a des trucs dont on n'a pas eu la chance de discuter que tu aimerais mentionner vis-à-vis de ta plateforme?
Oui, justement, vous m'avez fait vraiment réfléchir. C'est des bonnes questions que je vais prendre en note à cause de quelque chose que qu'on doit s'adapter. Moi, mes dossiers n'étaient pas orientés surtout vers les questions que vous m'avez posées. Mes attentes sont claires dans ma plateforme. Vous voyez mes points. Il y a certaines choses qui ont été commencées auparavant qu'on doit continuer pour une meilleure qualité d'enseignement puis une amélioration au niveau académique. Donc, tous mes points sur ma plateforme, comme par exemple l'évaluation des apprentissages, ça, c'est quelque chose que je tiens à cœur, le guide de plainte. Cette année, surtout avec la pandémie, on a vu que le guide de plainte n'était pas très clair. On avait des plaintes tout bord, tout côté. Donc, on doit avoir une meilleure gestion de ça. C'est quelque chose que moi, je veux lancer là-dedans. C'est quelque chose qui était commencé. Donc, faciliter, que ça soit facile d'usage pour tout le monde, puis ça soit quelque chose d'uniforme. Donc, les éditions auraient déjà des gabarits, quelque chose comme ça. Même chose pour l'encadrement de l'évaluation des apprentissages. C'est quelque chose que c'était commencé. Le comité, c'était un comité découlant de la RVD, de la Réunion des vice-doyens, puis que ça a tombé à l'eau. Il y a eu des changements de personnes qui siègent ce comité-là, ça tombe à l'eau. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ça permettrait d'uniformiser l'évaluation des apprentissages. Puis, par exemple, ça serait comme une politique qui explique vraiment qu'est-ce que les bonnes stratégies ou les méthodes pédagogiques à utiliser à l'Université Moncton pour toutes les facultés. On voit souvent que la pondération, c'est pas clair. Comment est-ce qu'on peut donner pour l'examen mi-session, l'examen final, la durée d'un examen mi-session finale, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on doit donner un pourcentage avant de se retirer avec la note R? C'est toutes des choses que j'aimerais que ça soit clarifié dans une politique comme ça pour l'évaluation des apprentissages. Donc, ça, c'est quelque chose de ma plateforme qui est très important, que je continue à miser dessus. Je suis encore ouvert aux personnes qui veulent me lancer des dossiers de même. J'aime souvent avoir les avis. Puis cette année, j'ai eu la chance aussi un peu avec mes VP académiques. C'est pour ça que j'ai encore dans ma plateforme des relations de confiance avec mes VP académiques, avec l'AICUM. On a beaucoup travaillé ensemble avec le corps professoral, la BPUM. Donc, je trouve ça, c'est vraiment important pour faire avancer nos dossiers, que ce soit auprès des différentes instances ou ici à l'interne à l'AICUM. Je trouve ça, c'est vraiment important. Donc, c'est ça, encore une fois, j'encourage toutes les personnes étudiantes de venir m'envoyer des questions, m'envoyer leurs commentaires sur qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer au niveau de l'académique. C'est difficile cette année d'aller consulter. Moi, je suis une personne vraiment de terrain. J'aime me promener puis poser des questions. C'est plutôt difficile cette année. C'est pour ça que je dépends des associations, des choses comme ça. Mais encore là, je vous encourage de juste venir me lancer et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de l'académique.
Excellent. Il brigue un deuxième mandat consécutif au poste de vice-président académique. Alain Lavoie, merci beaucoup, Alain.
Merci, Pierre.
La discussion se poursuit dans quelques instants avec Émilie Mockler. Restez des nôtres. Alors voilà, c'est maintenant le temps de continuer la discussion avec la deuxième candidate de la journée. Oui, Émilie Mockler qui brigue un deuxième mandat à la vice-présidence interne. Bonjour, Émilie.
Allô.
Alors, Émilie, pourrais-tu un peu nous parler de toi? Présente-toi aux gens qui nous écoutent présentement.
Bien, comme tu as dit, je m'appelle Émilie Mockler. Je suis originaire du Nord-Ouest, d'Edmonton, plus précisément. Puis ça fait déjà depuis 2016 que je suis étudiante à l'Université de Moncton, campus de Moncton. Je suis étudiante aux arts, en histoire. Puis, comme Pierre vient de dire, j'étais la vice-présidente interne de 2019-2020. Je sais plus. La pandémie, là, ça a tout screwé up ma notion de temps. L'année dernière, anyway. Puis là, j'ai vu une réélection, c'est ça que je vis, on appelle ça, une réélection pour 2021-2022.
Puis, justement, tu l'as mentionné, la pandémie a un peu tout déréglé le cadran. Ça a un peu déréglé la vie sociale à l'université aussi. Ça a été difficile. Comment envisages-tu l'année prochaine?
Oui, ça a un peu beaucoup déréglé la vie étudiante. Je te dirais que c'est qu'au début des élections de l'année dernière, on savait pas que ça allait tout virer en ligne sur une dizaine. Fait qu'il a fallu qu'on s'adapte toute l'année. Qu'est-ce que je réponds aux gens quand ils me demandent un peu qu'est-ce que je planifie de faire l'année prochaine, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui vont être les conditions dans un mois, dans six mois, dans un an. Fait qu'il va falloir qu'on roll with the punches, si tu utilises cette expression-là. Il va juste falloir qu'on s'adapte. Je pense que plus que ça va, plus qu'on va être capable de faire d'activités en présentiel. Moi, c'était une des grosses affaires que je voulais faire de mon mandat l'année dernière que j'ai malheureusement pas pu faire. Mais après une année de SRR, on a pu un peu s'adapter. Avec ceci, on a travaillé beaucoup avec eux pour avoir de la programmation en ligne, notamment toutes les activités FIFA, les activités Smash, Mario Kart, les trivia toutes les semaines, toutes ces affaires-là. On a mis la main à la pâte pour trouver des affaires, pour avoir une vie étudiante quand même, parce qu'en plus, malheureusement. Mais c'est ça, mon but est de pouvoir de plus en plus organiser d'activités, espérons en présentiel, mais l'avenir, on sait pas.
Mais justement, on ne sait pas, et prenons le pire scénario. Si tout se passe encore à distance l'an prochain, comment comptes-tu améliorer la vie sociale si tu es réélu?
C'est ça. C'est sûr, ça serait le pire scénario, puis on knock on wood, là, c'est pas vraiment pas ça qu'on espère. Mais justement, avec cette année, on a pu vraiment faire beaucoup d'essais, comme j'ai dit tantôt, de trouver qu'est-ce qui marche moins pour les étudiants. Trivia, ça marchait beaucoup en présentiel, puis ça marche quasiment autant bien en ligne. Tout le monde peut se connecter chez eux avec leur bulle d'amis quand c'est possible, avec leurs roommates, leurs amis en ligne même. Il y a plein de possibilités comme ça, fait qu'on essaie d'innover. Qu'est-ce qui a été plate de cette année, c'est que ça allait arriver tout vraiment vite, fait qu'on n'a pas pu vraiment explorer toutes les options qu'on aurait voulu explorer dans la planification de la rentrée surtout, là. C'est comme il a fallu qu'on fasse ça rapidement, puis on n'a pas pu nécessairement, tu sais, comme il y a des plateformes qui existent pour faire plus d'activités en ligne, il y a plein d'autres comme jeux qu'on aurait pu monter, mais c'était vraiment une question de temps, comme ça. On était vraiment restreint dans le temps cette année, fait que là, je pense le temps serait de notre bord si, admettons, qu'on viendrait back tout en ligne, malheureusement. Ça serait moins le fun, mais ça serait peut-être plus des activités comme innovatrices.
Puis, la prochaine question, c'est une question qui revient à chaque année quand ça vient à la vice-présidence interne. On constate un manque d'engagement chez les personnes étudiantes. Personnellement, comment comptes-tu améliorer le niveau d'engagement des étudiants à distance et potentiellement, éventuellement, sur le campus aussi?
C'est ça. À distance, c'est un nouveau défi, oui, mais c'est pas, ça rajoute pas au défi qui existait déjà. On en parle souvent, c'est juste en réunion, on mentionne souvent que 10 ans passés, la FECUM compétitionnait avec d'autres activités qui se passaient dans la ville, au campus, etc. Là, l'université doit compétitionner avec d'autres activités, d'autres intérêts, mais aussi les emplois temps partiel, temps plein, même de certains étudiants. Fait que ça, c'est un autre ballgame, comme on dit. Les étudiants ne peuvent pas nécessairement prendre off pour venir à nos activités, fait qu'il faut qu'on essaye de comme naviguer dans tout ça. On essaye de, surtout en ligne, ça nous a donné une bonne opportunité de faire des activités comme, tu sais, le soir, trivia night, le mardi soir à 8h. C'est pas tout le monde qui travaille, surtout en cette pandémie. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement, ils n'ont aucun emploi, puis ils sont juste chez eux, puis une activité, c'est mieux que rien. Fait que c'est absolument un défi, rapprocher la FECUM de les membres, parce que c'est pas tout le monde, malheureusement, qui, comme, tient la FECUM à cœur, comme, moi, puis certains autres, certains élus, puis les membres du CERF, c'est ça. Mais c'est ça que, comme, j'essaie de faire un peu depuis que j'ai commencé à m'impliquer à l'université, point, là, comme, aux arts, puis ensuite au CA de la FECUM, c'est ça. Et j'essaie de, comme, renouveler l'intérêt, tu sais, comme, j'envoie des messages à certains de mes amis, des fois, puis je suis comme, oh, c'est ça, c'est pas, puis ils savaient même pas parce qu'ils ont juste pas vu le post passer. Puis, turns out que c'est une activité qui les intéresserait, fait que c'est trouver des différentes manières d'aller chercher les étudiants, c'est comme peut-être qu'ils n'ont pas vu l'activité passer dans le courriel, mais si qu'on la poste sur Instagram, ils vont la voir passer. C'est vraiment s'adapter 24/7. C'est ça la job.
Puis la dernière question pour toi, Émilie, c'est une question qui a été demandée à tous les candidats. Alors, est-ce que tu serais en faveur de changer le mode de scrutin de la FECUM au mode préférentiel, ou en anglais « rank ballot », lorsqu'il y a plus que 2 candidats pour un poste?
C'est ça. Ça, c'est comme, ayant siégé une couple d'années déjà sur le comité de restructuration, on essaie de tout revamper la constitution, le mode d'élection, etc., de la FECUM, pour justement, c'est souvent, on a un manque d'intérêt, malheureusement, des fois, à notre élection, juste parce que ça tombe à des moments comme pas vraiment propices à l'engagement étudiant, surtout quand ça tombe pendant une pandémie, l'année passée, entre autres, pendant les sessions d'examen, parfois ça arrive, c'est juste des affaires de même, ça rend les choses plus difficiles. C'est un avenue que je pense qu'on a déjà exploré, mais si je me trompe pas, on avait choisi de comme s'écarter de sa possibilité-là parce que c'est très rare, là, en fait, qu'on voit beaucoup de personnes au même poste. Ça l'est arrivé pas trop longtemps passé pour la présidence, les élections partielles qu'on avait eues pour le poste de présidence qui était vacant en septembre, je pense, ou fin août, septembre. Puis c'est, comme moi, de mémoire, là, c'est comme une des seules fois que je me rappelle qu'il y a eu 3 candidats. C'est ça, c'était quand même assez exceptionnel. Là, on le sait, moi, Mathilde et Alain, on est tout seuls pour nos postes. On n'est pas, c'est pas un poste qu'on contestait, fait que c'est des votes de confiance. Je te cacherai pas que je trouve ça un peu plate, là. C'est comme pas que ça rend la période électorale un peu plus relaxante. Je te cacherai pas, mais c'est un peu plate parce que j'aimerais voir plus d'intérêt dans la FECUM. C'est tout le temps le fun de voir ça. Personnellement, je trouve que c'est pas vraiment l'avenue à prendre, ce mode de vote comme préférentiel-là. Justement parce que ça viendrait, je sais pas c'est quoi le mot que je vais utiliser, mais ça se ferait juste pas quand on est juste un candidat, justement. On s'attend souvent des votes de confiance. C'est pas mal. J'ai pas beaucoup de plus d'autres choses à élaborer dessus.
Excellent, Émilie. Ben, on va terminer ça avec cette dernière petite précision ici. Est-ce qu'il y a des éléments de ta plateforme que tu n'as pas eu la chance de mentionner au courant de tes réponses que tu aimerais plugger en ce moment?
Oui, ben c'est ça, ma plateforme, puis la plateforme des autres candidats, en fait, elle est disponible sur. On envoie des courriels assez fréquemment, puis elle est disponible sur le site de la FECUM, puis je pense qu'on l'a tout posté sur nos réseaux sociaux. Ça l'explique pas mal tout, mais en gros, beaucoup de ma plateforme, c'est axé sur transitionner des dossiers qu'on a travaillé dessus toute l'année, qu'on a malheureusement pas pu finir. C'est des gros projets comme la restructuration. On est en train de mettre sur pied un comité avec AICUM pour trancher sur la question du racisme systémique au campus dans le microcosme universitaire et tout ça, là. Fait c'est pas des affaires qui se font en deux temps, trois mouvements. C'est faut qu'on travaille là-dessus continuellement pendant plusieurs années. Puis ça, c'est des dossiers. C'est la restructuration. J'espère que je pourrai la finir pendant ce mandat-ci si j'ai une réélection. L'affaire, c'est le racisme systémique. Je pense pas que je vais pouvoir fixer ça de moi-même avec le comité cette année. Si ça sera quelque chose qui va falloir se continuer. Mais c'est ça. Dans le fond, la majorité de ma campagne est axée sur la continuité des dossiers qui existent déjà parce que c'est un des gros manques à la FECUM, souvent les élus entrent avec une idée, avec un mandat, avec plein de dossiers dans la tête qu'ils veulent faire, puis ça, des fois ça se fait, des fois ça ne se met même pas à terme, puis le prochain mandat rentre, puis ils font des affaires différentes. Fait qu'il y a plein d'affaires qui sont comme droppées, c'était là, que c'est des beaux projets qui auraient pu être mis à terme, puis qu'ils juste tombent dans les cracks un peu, là. Fait que je trouve que ça, c'est plate, qu'il y a comme beaucoup de choses qui auraient pu être faites, qui sont pas parce que personne se bat de continuer. Fait. C'est un peu ça que moi j'essaie de faire à la FECUM.
Excellent. Émilie Mockler se présente pour une réélection à la vice-présidence interne. Merci beaucoup, Émilie.
Merci, Pierre.
Bonne journée. La discussion se continue dans quelques instants. Nous allons rencontrer Mathilde Thériault pour la présidence. Restez avec nous. Alors voilà la troisième partie de cette discussion avec les candidats aux élections de la FECUM. Nous terminons cela avec Mathilde Thériault qui est candidate à la présidence de la FECUM. Bonjour Mathilde.
Bonjour Pierre.
Alors pour commencer Mathilde, présente-toi aux gens qui nous écoutent.
OK. Moi je m'appelle Mathilde Thériault. Je suis présentement étudiante en travail social en troisième année. J'ai commencé beaucoup à m'impliquer au niveau de la cause étudiante, je dirais, dans mes années préparatoires, auprès de diverses problématiques qu'on pourra sûrement discuter plus tard, là, mais je me présente à la présidence pour la FECUM pour l'année prochaine.
Alors, on sait que la présidence, c'est un rôle qui est accompagné d'une grande visibilité, être la tête d'affiche un peu de la FECUM. Selon toi, qu'est-ce qui est l'enjeu le plus important en ce moment pour la cause étudiante que la FECUM doit adresser?
C'est une bonne question. Présentement, vu le contexte de la crise sanitaire, je pense que c'est vraiment là-dessus que je miserais prioritairement. Par exemple, la santé puis le bien-être des étudiants, c'est quelque chose qui est quand même assez important à adresser. C'est la crise, ça cause beaucoup d'isolement, ça cause beaucoup d'adaptation à notre quotidien. Puis des fois, ça peut venir chercher les étudiants, puis développer des nouvelles difficultés auxquelles il faut s'adapter. Donc, ça, c'est quand même un enjeu assez important que je pense qu'en tant que présidente, j'aimerais adresser, là. Puis aussi, la COVID, c'est sûr que ça a un impact sur le fonctionnement qu'on fonctionne à l'université. Je prends par exemple l'enseignement à distance. Donc, c'est vraiment s'assurer que les étudiants reçoivent qu'ils reçoivent un enseignement adéquat qui répond aux normes, puis aux politiques universitaires, puis à leurs droits aux étudiants.
Et un autre enjeu très important, on en entend parler à chaque année, c'est le sous-financement des universités. Où vois-tu la campagne Mes études me ruinent de la FECUM aller sous ta présidence dans la prochaine année?
Ah ben ça, c'est sûr que c'est une campagne super importante que je pense à chaque année. Il faut quand même prendre la relève en tant que présidente de la FECUM. Les droits de scolarité, eux autres, ils diminuent pas, je dirais. Ils continuent toujours à persister. Donc, c'est quand même un dossier que j'aimerais beaucoup prendre la relève dessus. C'est sûr qu'il faudrait avoir une collaboration avec le gouvernement provincial, puis même peut-être faire front commun avec certains organismes acadiens francophones. Donc, peut-être avoir une différente approche, puis avoir, je dirais, un peu s'ouvrir, pas les yeux, mais s'ouvrir les horizons, je dirais, par rapport à la manière qu'on veut vraiment approcher cette problématique-là. Donc, vraiment faire un front commun avec les enjeux similaires des autres organismes.
Est-ce que, et ça c'est une question qui est posée à tous les candidats, est-ce que vous seriez en faveur de changer le mode de scrutin de la FECUM au vote préférentiel, ou en anglais on utilise ranked ballot, lorsqu'il y a plus que deux candidats pour un poste?
C'est un peu touchy. Avant de répondre à cette question-là, c'est sûr que j'aimerais bien consulter des personnes qui sont plus connaissantes par rapport à cette nouvelle politique-là, juste pour s'assurer que ça reflète bien l'intérêt des étudiants. C'est sûr que je ne voudrais pas enlever quelque chose ou mettre quelque chose en place que les étudiants ne sont pas consultés. Donc, avant de répondre à cette question-là, je pense que ce serait vraiment bien de sonder la population étudiante puis les experts par rapport à ce sujet-là.
Prochaine question de ta plateforme. Tu mentionnes une formation obligatoire sur le consentement pour les nouveaux étudiants. Est-ce que tu es ouverte à ce que cette formation inclue aussi une introduction aux identités et orientations de la communauté LGBTQ+, moins comprise par le public tel que la communauté transgenre ou la communauté asexuelle?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. C'est sûr que la communauté LGBTQ+, ça c'est une communauté plus à risque au niveau des agressions, puis des harcèlements à caractère sexuel, peu importe la forme de violence. Donc, c'est primordial, tant qu'à moi, d'aborder ce sujet-là, parce que ça permet de mieux comprendre la problématique, les personnes plus à risque, de vraiment comprendre ton entourage aussi par rapport à ça, parce que la violence sexuelle, ça touche pas mal plus de gens qu'on pense. Donc, cette formation-là serait obligatoire pour tous les nouveaux étudiants, pour vraiment sensibiliser, puis assurer que les nouveaux étudiants à l'université prennent une prise de conscience par rapport à la violence à caractère sexuel sur le campus.
Et c'est certain qu'avec ces questions-là, tu n'as pas eu la chance de mentionner tous les éléments de ta plateforme. Est-ce qu'il y a certains éléments de la plateforme que tu n'as pas eu la chance de plugger dans tes réponses jusqu'à maintenant que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent?
Ben oui, c'est sûr que ma plateforme est un peu longue, c'est difficile de la mettre dans quelques minutes là. Mais c'est sûr qu'au niveau d'environnement, c'est quelque chose que, quand j'ai commencé à m'impliquer en tant que comme étudiante, c'est vraiment là-dedans que je m'ai lancée. Donc, l'environnement qui a développé un peu en justice sociale. Donc, ça, c'est quand même deux enjeux pour moi qui me tiennent beaucoup, beaucoup à cœur. C'est son travail social aussi, ça fait que pour moi, c'est quelque chose qui me, je dirais, drive dans mes engagements. Mais c'est sûr que j'aimerais que le campus soit plus vert, plus inclusif. D'assurer qu'on a une juste représentativité par rapport aux étudiants internationaux et les communautés autochtones dans les prises de décision à la FECUM ou à l'université. Au niveau de l'environnement, j'ai beaucoup, beaucoup de choses que j'aimerais faire, là, mais c'est sûr que diminuer l'empreinte écologique juste en général à l'université, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc ça, c'est un peu vaguement mes engagements-là.
Excellent. Eh bien, voilà, c'était la candidate Mathilde Thériault à la présidence. Merci beaucoup, Mathilde, et bonne chance.
Merci, Pierre.
Et c'est ce qui met fin à ces discussions avec les candidats, candidates de les élections à la FECUM. Restez aux aguets sur la page de la FECUM pour les autres informations.